Alors, à quelques mois de distance, je vais continuer mon histoire de Paul. Alors, c'est pas sûr que je vais le faire à chaque fois, parce qu'il y a d'autres choses des fois, mais là, pour cette fois-ci, je continue en tout cas. On avait parlé du premier voyage, au départ, on avait parlé de la conversion de Paul. Alors, j'ai retrouvé des cartes, et cette fois-ci, on les a sur l'ordinateur, donc ça devrait être un peu plus visible. Et on va faire ça comme les présentations officielles. Si mon assistante technique y arrive. En tout cas, on a parlé du premier voyage et le point final un peu du premier voyage, c'est quand Paul se fait lapider à Lystre. Et donc après ça, Paul il repart à Derbe, dans la ville voisine, et pas simplement pour s'y reposer, mais il arrive là-bas et il évangélise la ville. Il est inarrêtable, Paul, et donc il va quitter que quand il y aura un assez grand nombre de disciples. Et une fois qu'il aura fait ça, il va refaire le trajet en sens inverse, donc des églises dans lesquelles il a été, en exhortant, en encourageant et en nommant des anciens dans les églises. Et donc ça, c'est tout un travail aussi. Il se contentait pas juste d'aller, d'évangéliser, de créer une église et puis de les laisser là comme ça, mais il y allait et il retournait encore. Après, il leur envoyait des lettres. Et c'est en fait tout le travail de suite qu'on a dans la Bible qui permet de savoir ce qu'il a fait. Et c'était tout aussi important, en fait. S'il les avait laissés comme ça, ben, toutes les églises seraient parties dans n'importe quelle direction. Il y aurait eu des erreurs qui auraient été dites. Mais là, il revenait, il faisait les efforts pour que ce soit affirmé dans l'église, en fait. Alors, donc, ils rentrent à Antioche, leur église de départ. Et là, il reste un long moment avec les disciples. Et en fait, on lit dans Acte 15 que le repos va pas être de si longue durée que ça. Donc dans Acte 15, donc c'est il est de retour à Antioche au chapitre 14 verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc là, il y a peut-être un petit moment de repos de Paul avant de repartir à l'attaque. Et donc au chapitre 15, quelques hommes venus de Judée enseignez les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Et donc après, en fait, accompagnés par les gens d'Antioche, ils sont montés à Jérusalem, et donc ça j'en avais déjà aussi parlé, où ils ont discuté de l'influence de la loi dans la vie des chrétiens, et où il a été décidé que finalement, il ne resterait que trois choses pour les chrétiens. C'était de s'abstenir de sang, de s'abstenir de débauche et de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ouais, c'est ça la troisième chose. Donc ils ont gardé ces choses-là. Et on a vu que bon, il y a des choses qui restent plus ou moins valables pour nous, même si on n'est plus sous la loi. Il y a tout un système que Dieu a mis en place et qui reste bon pour nous et qui reste à appliquer. Les 10 commandements restent tout à fait valables. Il n'y a pas de souci. Donc Paul et Barnabas ont choisi en fait d'aller à Jérusalem parce que c'était l'autorité à l'époque et que c'était beaucoup plus simple. Ils ont choisi d'aller à Jérusalem parce que c'était l'autorité donc de l'époque et que s'ils avaient simplement discuté avec les gens qui étaient venus les voir, ça n'aurait pas eu le même poids que si ça venait après de la part des disciples. Et donc, en ayant l'accord des disciples de Jérusalem, ils avaient un poids beaucoup plus important après pour retourner dans les églises et dire, ceux de Jérusalem, les disciples qui ont le nom officiel de disciples, ils ont dit que ça, c'était vrai. Et donc après, une fois qu'ils sont revenus de Jérusalem, ils ont pu propager autour d'eux la bonne nouvelle, parce que pour les païens, c'était une bonne nouvelle. Si on leur avait dit, bah écoutez, finalement, on en a discuté et il faut que vous fassiez tous circoncire, il faut que vous fassiez attention à tout ce que vous faites et que vous mettez en application toute la loi, il y en aurait des gens qui auraient peut-être laissé tomber, qui auraient dit « Ah non, c'est trop dur pour nous ». Et là, il leur enlevait vraiment un lourd poids, et donc après, il a été dans les églises pour parler de ça. Donc ça, c'était le concile de Jérusalem, et juste après, donc ça, c'était le chapitre 15, qui raconte le concile de Jérusalem. Acte 15, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. ça nous montre aussi quelque chose, qui est que si le Seigneur nous envoie pas tout de suite, ou s'il nous a déjà envoyé quelque part, eh ben, il n'y a pas de moment où on fait rien, en fait. Quand Paul, il n'était pas en train d'évangéliser, eh ben, il était en train d'encourager, d'annoncer la parole quand même là où il était, même dans son église de départ, et il continuait le travail incessamment. Et ça, c'est encourageant pour nous, et c'est un défi, je trouve, de voir qu'il ne s'arrêtait jamais. Après s'être fait lapider, il retourne à Derbe et il annonce l'évangile. Après le premier voyage, on se dit là, il a fait l'un des plus gros voyages, il va s'arrêter. Et non, il continue, il va à Jérusalem, il résout la question, et il retourne à Antioche, et à Antioche, il travaille aussi. Et donc, il ne s'arrête jamais, et c'est un défi pour nous, parce que si souvent on fait quelque chose pour le Seigneur, et puis après on fait « Bon là j'ai fait un beau travail, Seigneur, il me faut un moment pour souffler parce que je m'en sors pas. » Et évidemment le Seigneur nous donne des moments pour nous reposer, parce qu'on en a besoin de toute façon, mais le travail pour le Seigneur, il continue. Et même pendant qu'on se repose, même pendant qu'on est à Antioche, eh ben on peut continuer de travailler pour le Seigneur, continuer de faire des choses pour lui. Et donc après, verset 36... Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Donc là, on voit toujours la préoccupation de Paul pour les églises, qui dit, « On va retourner, on va voir s'ils se portent bien, il faut en prendre soin. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Donc c'était lui qui les avait quittés. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. C'est merveilleux. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Donc là, on a récupéré la carte. Donc, c'est moderne. Donc ils sont partis d'Antioche là-bas. Ils sont partis à Paphos, Salamine, en Chypre. Après, ils ont atterri quelque part à Antioche, mais pas la même Antioche. Et ils ont fait la série des églises. Alors, il y avait une ville au-dessus. Il y a Icone, Lystre, Derbe. Et après, donc à Lystre, Paul s'est fait lapider. À Derbe, donc il évangélise. Et après, il repart en sens inverse. Derbe, Lystre, Icone. Il repart. Et sans passer par Chypre, il retourne directement à Antioche. Et une fois qu'ils ont discuté à Antioche, il y a les gens qui viennent dire « faut observer la loi ». Donc là, ils vont d'Antioche à Jérusalem. Donc ça fait toujours des sacrés voyages, pour l'époque. Il a été un grand voyageur, Paul. Donc de Jérusalem, il repart à Antioche. Et donc après le deuxième voyage, je crois que j'ai une diapo qui donne mieux le deuxième voyage, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc ça, c'était le premier voyage, voilà. Et donc dans la Bible en bande dessinée, c'est ce que j'ai scanné là, c'est écrit qu'ils ont parcouru 2200 km sur terre et sur mer. Donc c'est pour l'époque, c'est un très très bon voyage. Quand même nous, quand on fait ça, on a des moyens modernes qui vont 10 fois plus vite qu'eux, mais c'est déjà énorme. Donc ça, c'est le premier voyage. Et donc le deuxième, il commence avec une dispute. Et je trouve ça presque rassurant dans un sens de voir la Bible qui nous décrit Paul qui se dispute. Parce que quand on le voit dans tout ce qu'il y a, on a l'impression qu'il est parfait, qu'il fait tout bien, quoi. Il évangélise, il se repose jamais, Paul, il est parfait. Et en fait, la Bible, elle nous montre toujours des gens et tels qu'ils sont. Et même si Paul y avait été énormément touché par le Seigneur, c'est pour ça qu'il y paraissait quasiment parfait, et ben il y avait des défauts. Et là, on voit que, on ne sait pas qui avait raison, de Paul ou de Barnabas, mais ils sont... Alors, la Bible, elle est toujours assez light aussi sur certaines choses. Quand on parle de David qui a été avec Bathsheba, c'est vraiment une ligne ou deux, et hop, c'est comme si c'était rien passé, quasiment. Enfin, pas dans le sens où c'est pas grave, mais la Bible ne s'amuse pas à décrire des choses juste par esprit de morbidité ou par... pour faire de la pub, ou un peu comme dans les journaux ou dans la télé. Et là, pour la dispute, c'est « ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre ». Et voilà. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, la bonne équipe qu'il y avait au départ, elle se coupe en deux, et on a d'un côté Barnabas, qui pensait qu'il fallait laisser une deuxième chance à Marc, à Jean, et de l'autre côté, Paul qui dit « non, on ne peut pas le prendre avec, il nous a laissé tomber, et il faut y aller ». Et on ne sait pas lequel des deux a raison. Mais c'était pour moi rassurant quand même de voir que la Bible ne montre pas juste des choses parfaites comme dans les dessins animés où les gentils gagnent tout le temps, les méchants ils perdent tout le temps. C'est forcément comme ça, comme dans les films. Et la Bible, elle nous montre les choses telles qu'elles sont. Et quand elle nous montre notre cœur, quand on la lit, eh ben, elle nous montre pas, elle nous dit pas, bah, c'est vrai, là, Michael, t'es très bien, là aussi, c'est bien, bon, bah, change plus rien, là, t'es un bon chrétien, pourrais faire mieux, mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. La Bible, elle nous montre, elle te dit, Michael, mets-toi devant Dieu et regarde comment t'es. Et quand je me regarde devant Dieu, je fais, oula. Et je me fais tout petit, et comme Paul disait la semaine dernière, au plus on se met devant Dieu, au plus on se met devant sa parole, au plus on se sent d'un misérable, terrible, et au plus on se sent d'une, pas forcément d'une petite valeur, parce que Dieu, il nous en donne, mais on se sent vraiment tout petit, et comme lui, il est extrêmement grand, le contraste, il est énorme. Mais ça fait du bien de juste se mettre devant la parole, et de se remettre à notre place. Et après, une fois qu'on est à notre place, le Seigneur peut dire, bah, tu vois, malgré le petit que t'es par rapport à tout ce que j'ai créé, eh ben, je t'aime et je t'accorde de la valeur. Et c'est là où, quand on a compris ce qu'on est réellement, et qu'on voit cet amour-là, ça nous fait encore plus de bien, et on se dit, l'amour du Seigneur, il est vraiment grand. Donc, Barnabas, il part à Chypre, avec Marc, qui est son cousin, et Paul, il choisit Silas, donc au verset 40. Paul choisit Silas, est parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc il est repassé par le chemin inverse de tout à l'heure. Il est passé par Tarse, certainement, d'où il vient. Et après, il est passé par Derbe, Lystre, Icône, pour refaire la série des villes qu'il avait parcourues la première fois. Et au chapitre 16, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et alors Lystre, je vous rappelle que c'est l'endroit où il s'est fait lapider. On peut se dire Lystre, il a pas trop envie d'y remettre les pieds, et ça s'est un peu mal passé. Mais il y est retourné quand même. Et ça, encore une fois, c'est un enseignement pour nous. Quand quelque chose se passe vraiment mal, comment est-ce qu'on réagit? Il y a des fois, le Seigneur, il nous dit, fais attention à... Il y a un exemple avec Paul aussi. Dans une lettre à Timothée, il dit, fais attention à Alexandre le forgeron, ou quelque chose comme ça, qui m'a fait beaucoup de mal. Il dit, fais attention. Donc là, Timothée, il sait qu'il doit prendre ses précautions. Mais Lystre, ben, c'était pas la même chose. Paul, il y retourne et il va y rester encore quelques temps. Et donc, c'est intéressant de voir que le Seigneur, il a des choses très particulières à chaque fois. C'est pas à nous dire, voilà, ça s'est mal passé, j'y retourne pas. Ou alors même l'inverse. Des fois, on va se dire, ça s'est mal passé, je reste pas sur un échec, j'y retourne. C'est un peu les casse-cou, ça. Mais c'est vraiment le Seigneur qui montre à chaque fois quelque chose de particulier pour la situation. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et parmi ces décisions, c'était qu'il fallait plus forcément obéir à la loi. Et je trouve ça marrant que Paul, finalement, enfin marrant, intéressant, que Paul, il recommande aux gens, bon, vous savez, la loi, c'est bon, il n'y a plus que trois choses qu'on vous demande d'observer, et finalement, il fait circoncire Timothée. On peut dire, il est pas très très logique dans ce qu'il fait. Et Timothée, en fait, il n'y avait pas besoin du tout de se faire circoncire. La Bible nous dit que les frères de Lystre et d'Icône, donc pas juste même sa propre ville, rendait de lui un bon témoignage. J'arrive pas à lire ma phrase. Il rend de lui un bon témoignage. C'est suffisant, en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter à ça la circoncision. Et si Paul, il le fait, c'est uniquement à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En fait, sa seule explication à la circoncision de Timothée, c'était de pas avoir une occasion de chute quelque part. Il s'était dit, si je l'emmène dans des synagogues, les gens le connaissent et les juifs le feront connaître, ça c'est sûr, qu'il est son père il est grec, qu'il n'est pas circoncis et ça va me poser des soucis. Et en aucune façon, Paul il a voulu le faire circoncire pour observer la loi. C'est vraiment pas une contradiction qu'il fait au final, même si ça peut sembler comme ça. Mais c'est tout ce qu'il fait, et il le dit dans d'autres passages, il dit qu'il le fait pour l'évangile, pour l'annonce de l'évangile, et pour la gloire de Dieu. Et là, la seule raison, c'est pour ne pas avoir des entraves quand il annonce l'évangile. Et il y a plusieurs versets comme ça. Ça, finalement, ça nous parle de circoncision. On se dit, c'est pas vraiment actuel, ça nous concerne plus. mais ça nous parle de notre comportement avec les autres. Parce que sa seule raison de Paul de faire ça, c'était juste qu'il y avait les Juifs et que ça aurait pu lui poser souci. Et il y a plusieurs versets dans Actes, dans 1 Corinthiens, pardon, qui expliquent la façon de voir de Paul et qui expliquent son geste en fait avec Timothée. Dans 1 Corinthiens 10, verset 9. Non. Alors, c'est pas 1 Corinthiens 10, verset 9. Alors, c'est pas grave, je l'ai à côté. Prenez garde toutefois que votre. Alors, je sais plus où il est, c'est pas 1 Corinthiens 10, verset 9. Mais le verset que je voulais dire, c'était: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc là, c'est pas juste une motivation à être végétarien. C'est simplement que notre comportement, il doit dépendre des gens qui sont autour de nous. Et ça m'a toujours un peu posé souci. Pendant pas mal de temps, on parlait avec Pascal, je me souviens à l'école du dimanche, du conformisme et de l'anticonformisme, de faire comme tout le monde ou faire différemment. Et j'étais toujours un grand défenseur de faire, moi, de toute façon, je ferais toujours différent des autres parce que, par pure position, quoi. J'ai envie de faire pas pareil que les autres et donc je ferais pas pareil que les autres. Et c'est marrant parce que tant qu'on n'est pas touché par le Seigneur, on a beau dire ça, on s'aperçoit que forcément on rentre dans un moule quelque part. Et on a beau faire systématiquement différent des autres, essayer de se faire remarquer même, et ben on est de toute façon dans un moule qui correspond à l'inverse de ce que les autres font, c'est tout. Mais il y en a plein des gens qui font l'inverse de ce que tout le monde fait. Et du coup on rentre dans cette catégorie-là, on est quand même dans un moule. Et on fait comme les autres d'une certaine façon. Et en fait, on a l'impression de nous-mêmes qu'on peut faire différemment des autres. Mais la Bible, quand elle parle des hommes, elle les met souvent en groupe. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont péchés. Et quand il y a des choses qui s'appliquent, ça s'applique à tous les hommes. Parce qu'on a tous le même cœur. On a tous les mêmes choses au fond de nous. Et donc, on ne peut pas faire différemment. Donc, le conformisme, finalement, c'est presque une fatalité. Si on n'est pas touché par le Seigneur, eh ben on fera forcément pareil que tout le monde autour de nous. Et la seule façon de ne pas être conformiste, bah c'est d'appartenir au Seigneur. Mais dans ce cas-là, on se conforme à lui. Donc on est quand même conformiste. Mais donc ça m'a toujours fait réfléchir ces questions-là, parce que je m'étais dit, non, moi, je suis pas pareil que les autres, je ferai pas pareil, et puis c'est tout. Et finalement, on s'aperçoit que dans certaines situations, bah on change quand même ce qu'on dit par rapport à si les gens étaient pas là. Par exemple, je vais pas avoir les mêmes propos si je n'aurais pas eu les mêmes propos, on va dire, si j'étais en face de ma mère que si j'étais avec mes copains. Il y a des choses que je vais pas dire quand il y a ma mère qui est là, c'était pas correct. Et là, je m'aperçois que finalement mon comportement, eh ben, il dépend des autres. Et je fais en fonction de ce que les autres sont. Alors c'est pas forcément mauvais, il y a forcément une adaptation à avoir à notre entourage, mais tant qu'on n'est pas touché par le Seigneur, on peut pas faire autrement que d'être déformé par les gens qui sont autour de nous, par notre environnement. Et je sais même pas s'il faut dire déformé, parce qu'on est déjà déformé à l'intérieur dès le départ. Mais c'était des choses qui je me disais, oh non, faire ça comme ça parce que les autres ils sont là, c'est de l'hypocrisie, c'est pas bien. Moi je veux pas être hypocrite. Mais finalement, Paul il nous montre que c'est pas de l'hypocrisie. Il a pas fait circoncire Timothée uniquement en disant, bon ben, je dis qu'il faut pas appliquer la loi, mais lui je le fais, comme ça on est tranquille et puis c'est bon. Son seul souci, on l'a eu tout à l'heure, c'était afin de ne pas être gêné par les Juifs ou à cause des Juifs. Et c'était pas, les Juifs ils m'observent, donc je vais faire ça bien, quand ils regarderont pas, on s'en fichera. C'était vraiment dans ce qu'il disait. Et j'ai tourné trop vite. Et dans 1 Corinthiens 10, il continue après, 1 Corinthiens 10, verset 23, il dit « Tout est permis, on est libre, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et ça, c'est la règle de Paul dans tout ce qu'il faisait, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et il continue sur ces histoires de manger après, de boire des choses, d'y manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous alliez, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. En effet, pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? C'est peut-être un peu ma position avant, en étant peut-être un peu trop idéaliste, à me dire, on est libre, on fait ce qu'on veut, pourquoi les autres ils me jugeraient, je fais ce que je veux. Mais c'est pas ça. Ça reste sur l'idée de soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de Dieu, celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et c'est là où on sait si notre comportement c'est de l'hypocrisie ou pas. Si on sait ce que Paul fait, c'est de l'hypocrisie ou pas, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça me sert juste personnellement à éviter les ennuis ou à me faire bien voir? Ou est-ce que ça me sert, pas à moi, mais à Dieu, parce que je sais que ça va me poser des soucis après? Et là, la circoncision de Timothée, c'était uniquement pour ça. Et Paul répète dans plusieurs autres endroits que tous ceux qui sont sous la loi sont maudits. Et que ceux qui veulent observer la loi doivent observer toute la loi. Et il dit aux Galates plusieurs fois, ne cherchez pas à vous faire circoncire, ça vous apporte rien du tout. Et donc tous ces passages, ça nous montre notre comportement par rapport aux autres. Alors quand on me dit que je manque de diplomatie, c'est pas de la diplomatie finalement que je manque, c'est de l'amour. Et quand Paul y parle de toutes ces choses-là, c'est pas une question de diplomatie, d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres. C'est simplement une question d'aimer les autres et d'être capable de prendre sur nous de faire certaines choses qu'on ferait pas habituellement pour que les autres ne soient pas, ça mette pas une barrière entre eux et Dieu. Et c'est là où c'est de l'amour parce que c'est pour les autres. C'est vraiment pas pour notre propre personne à nous. Donc tout ça, ce petit passage-là à Lystre avec Timothée, c'était un petit complément par rapport au concile de Jérusalem. Et c'est vraiment intéressant de relire ces choses-là, parce que quand on lit, on dit toujours la circoncision et tout ça, ça nous passe au-dessus, si ça s'applique pas à nous. Mais en fait, tout ça, ça donne vraiment plein de règles sur notre façon d'être avec les autres. Et la règle de Paul, son credo, c'est « Tout est permis, vous êtes libre, mais tout n'édifie pas. » Et ça, c'est une règle à retenir pour nous. On peut faire ce qu'on veut, bien sûr, on est libre. Mais quel est le résultat de tout ça? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est de la diplomatie? Est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est important pour nous de voir ça, pour savoir qu'est-ce qui est dans notre cœur au juste. Est-ce que c'est quelque chose qui reflète le Seigneur? Ou est-ce que c'est juste pour notre propre intérêt? Donc là, on revient à notre voyage. Et à Antioche, en fait, ils ont un petit moment de flou. Et ils savent pas trop. On a l'impression qu'ils savent pas trop où aller. Alors, c'est dans Acte 16. Un petit rappel aussi que m'a fait Tim hier. C'était que son propre nom, Timothée, ça vient de Timor, la crainte, était Théos, Dieu. Et ça, c'est marrant parce que je trouve que ça. Ça explique tout le passage à Lystre. Qu'est-ce qu'il avait, Paul? La crainte de Dieu. Et c'est ce qu'on est censé avoir. On en discutait hier, donc ça tombait pile au bon moment. En tout cas, acte 16, verset 6, donc. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait y annoncer la bonne nouvelle. Alors, il y a toute une série de noms, là. Alors, le problème, c'est que sur les cartes, on les voit jamais aux mêmes endroits, ces régions-là. Donc, c'est une carte qui vaut ce qu'elle vaut. Ça donne juste une idée un petit peu de ce qu'ils faisaient. Donc, ils sont partis de Lystre. Ils sont repassés à Icône, Antioche. Et là, Antioche, il semblerait qu'ils aient voulu aller vers Éphèse, là-bas. Donc, ils ont voulu le traverser. Et là, la Bible nous dit simplement, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et là, encore une fois, c'est terrible parce que c'est une ligne, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, soit pour Paul, soit pour les autres, qui a fait que, ben non, ils devaient pas aller là-bas. Donc l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. Ils se disposaient aussi à rentrer en Bithynie. Donc, ils étaient à Antioche. Ils ont voulu aller à Éphèse, et ils n'ont pas pu. Ils sont remontés au nord, et ils voulaient passer dans des villes qui étaient plus de ce côté-là. Et en fait, ils n'ont pas pu aller en Bithynie. Et donc, c'est là que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et donc, ils sont repassés plus haut là-bas et ils sont allés jusque Troas. Donc, ils ont hésité soit à passer là, mais finalement, ça ne s'est pas fait, soit à remonter au nord. Et là, pareil, le Seigneur les a empêchés. Et c'est un tout petit passage où on voit plusieurs fois que Dieu, il a dirigé. C'est vraiment, on veut aller par là, non, pas par là. Ils vont plus loin, non, pas par là non plus. Et là, c'est bon. Et quand ils sont arrivés à Troas, Paul, il a eu cette vision qui lui confirmait que, ben, déjà, il était au bon endroit, il s'était pas trompé, parce que on n'a rien du tout de ce que Paul y pensait à cet endroit-là. Mais j'imagine qu'il a dû être quand même un peu perplexe et se dire, ben, je voulais évangéliser là-bas et finalement, je dois faire quoi, Seigneur? Et il devait se poser des questions comme nous, dès que le Seigneur, il nous met un peu des portes fermées, on se dit, bon. Bah, c'est fermé là, où est-ce que je vais alors, Seigneur? Et on essaye un peu les portes, et c'est un peu ça, quoi. J'essaye la porte, ah bah non, il ferme. Bon bah, je peux pas aller là, là non plus, bon bah, je vais aller là alors. Et des fois, le Seigneur, il est un peu plus directif, il nous envoie une vision, il nous dit, passe en Macédoine et viens là-bas. Et donc là, on ne sait plus un choix, essayer toutes les portes jusqu'à ce qu'il y en ait une de bonne. C'est vraiment, là je sais, c'est celle-là, le Seigneur, il me l'a montré. Et c'est... Ça dépend vraiment des circonstances, de ce que le Seigneur y fait, de plein de choses. Que des fois, il se contente de fermer des portes pour nous montrer qu'il faut aller ailleurs. Et des fois, ben, il nous envoie une direction bien précise et nous dit, là, tu vas là. Une chose qui est à noter juste ici aussi, c'est le, donc, jusqu'ici, c'était Paul et machin, et Barnabas, Silas. Et au verset 10, c'est après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Et donc c'est à ce moment-là, c'est à Troas, qu'ils ont rencontré Luc, qui écrit le livre des Actes, et qui s'est embarqué avec eux pour un tout petit morceau du voyage au final. Et donc sur ces questions de que le Seigneur il nous montre les directions à prendre, c'est intéressant de voir que le Seigneur, il parle jamais de la même façon. On dit là, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, on ne sait pas si Paul, il a entendu une voix ou s'il y a eu des circonstances qui ont fait que. Après, il a eu une vision. Et il faut pas qu'on se bloque juste à un canal du Seigneur, à se dire, ben, on y pensait avec les jeunes l'autre fois. Le Seigneur, il nous envoie les anges comme messagers. Ben, je vais m'attendre à un ange et puis je vais vraiment faire jusqu'à ce que le Seigneur il me parle par un ange. Parce que ça se trouve, le Seigneur, entre deux, il vous aura donné une vision ou quelqu'un d'autre qui vous aura parlé ou toute autre chose et vous l'aurez raté. C'est comme si vous attendiez à écouter un message et vous bloquez sur une station de radio. Vous bloquez, ça va être France Info forcément. C'est la meilleure radio d'information continue. Et au final, l'information, elle passe sur RTL ou je sais pas trop quelle autre radio. C'est des fois, on est très bloqué comme ça, on se bloque aussi peut-être juste à la parole, et on dit, bah, le Seigneur, il va me parler par ça. Bah oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres, il y a la personne qui est au micro, des fois, il y a Il y a les rêves, il y a les animaux. Il a parlé par un animal à Balaam. Il y a tout un tas de moyens que le Seigneur il a à sa disposition. Les anges aussi, des fois. Et si on se bloque sur une façon de faire du Seigneur, si on se bloque sur des méthodes, parce que des fois le Seigneur il nous parle différemment. Maï, elle me disait tout le temps, le Seigneur il y va très doucement avec moi en général et je lui suis reconnaissant. Et moi je dirais exactement l'inverse. Le Seigneur il y va par claque avec moi et c'est beaucoup plus efficace. Ah, est-ce que parce que je suis une tête de mule, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a des méthodes qui sont différentes pour chacun. Et si on s'attend juste à avoir des claques tout le temps, on va pas comprendre quand le Seigneur il y va plus doucement. Si on s'attend à avoir tout le temps des choses très douces, quand il va donner une claque, ça va faire extrêmement mal. Donc c'est à nous à vraiment être ouvert sur tous les moyens de parler et toutes les façons de parler du Seigneur. Et là, Paul, il a dû vraiment recevoir des choses du Seigneur de plein de façons différentes dans sa vie et le petit passage, il traduisait ça un petit peu. Donc après ce petit moment de flou-là, ils arrivent à Troas. Ils ont un rêve, ils embarquent Luc avec. Et donc au verset 11, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc là, ils étaient à Troas. Ils sont partis de ce côté-là. Ils sont arrivés au port à Néapolis et ils sont partis à Philippe. Donc Philippe, c'est en Grèce. Donc c'était la première ville d'Europe à recevoir l'évangile. Et donc c'est une ville de Macédoine. Donc c'était vraiment le Seigneur qui dit, il faut que tu ailles en Macédoine. Paul, il prend le bateau et hop, il est en Macédoine. Il cherche pas vraiment à comprendre. Donc il semblerait que c'était une ville assez importante. En tout cas, comme c'est un peu, c'est sur le chemin entre ce qui est la Turquie actuellement et l'Europe, c'était assez une plaque tournante et tous les gens qui voulaient passer en Asie pour le commerce, ils passaient par Philippe là-bas. Donc c'était, semblerait-il, une ville assez riche. Mais, quand on voit la suite, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et en fait, dans la ville, alors ça c'est pareil, c'est toutes des choses, je suis pas sûr à 100%, mais il y avait pas de synagogue. Donc ils faisaient leur réunion près d'une rivière en dehors de la ville. Et il semblerait que la raison pour ça, c'était qu'il y avait un nombre minimum, ça reste logique, de personnes pour avoir une synagogue dans une ville. Et le nombre que j'ai trouvé, il vaut ce qu'il vaut, c'était 10 hommes. S'il y avait pas 10 hommes dans la ville, il y avait pas de synagogue, ils étaient obligés d'aller ailleurs. Et donc, malgré que Philippe était une ville assez riche, qui avait du commerce et toutes choses de ce genre-là, il n'y avait pas assez, il n'y avait même pas 10 hommes qui étaient juifs pour faire une synagogue. Et c'est là où on voit les choses inverses qu'il y a entre le monde tel qu'on l'a et ce que le Seigneur y fait. C'est qu'au plus on est riche pour le monde, souvent, au moins on connaît les choses de Dieu. Et malgré tout, il y avait certainement un nombre de juifs incalculables qui étaient passés par Philippe. Et finalement, ça avait très très peu marqué la ville, il n'y avait même pas assez pour faire une synagogue. Et c'est important pour nous de savoir toujours où est-ce qu'on met notre esprit. Si on va dans le commerce, dans l'argent, dans les choses simplement qui sont du monde, on va forcément se séparer des choses qui sont du Seigneur et s'appauvrir des choses du Seigneur. On n'est pas incommensurable, un gros mot, mais on n'est pas illimité au niveau taille. On n'a qu'un certain nombre limite de choses qu'on peut avoir dans notre esprit, dans notre tête. Et au plus vous allez donner de place aux choses du monde, au plus ça va prendre la place. Forcément, les choses du Seigneur, elles vont diminuer pour laisser de la place. On peut pas élargir comme ça tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, et surtout nos centres d'intérêt, ce qu'on aime. Si on aime énormément quelqu'un, forcément, on reporte beaucoup de choses sur lui, on va passer du temps avec lui, donc on passe moins de temps avec les autres, c'est inévitable. Et donc, si on aime les choses du monde, on passe forcément moins de temps avec le Seigneur pour ces choses à lui. Alors, dans Philippe, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc la première personne qu'il rencontre, dans les premières personnes, c'est Lydie. Et c'est intéressant de voir les deux types de personnes et de voir que le Seigneur, il a des choses pour tout le monde. Parce que la personne d'après, au verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, ou d'un esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et là, donc là, on a une personne qui semble, on va dire, sage, Lydie, qui est marchande de pourpre, donc qui a fait son commerce et tout ça. Et à côté, on a la servante qui a un esprit de python et donc qui procure un grand profit à ses maîtres. On ne sait pas depuis combien de temps. Mais le Seigneur, il a pour les deux un message particulier. Si Lydie, ça ne parle pas de délivrance, de quoi que ce soit, elle a quand même ouvert son cœur et il y avait quand même quelque chose dans le message de Paul qui l'a touchée et qui a fait qu'après, elle s'est baptisée. Et pour la servante, il y avait simplement pour elle la délivrance de choses qui étaient, on va dire, plus visibles que pour Lydie, peut-être. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y avait quelque chose dans le message qui touchait le cœur de la personne. Et finalement, on voit que Dieu, il suit le même principe que Paul. Il se fait juif avec les juifs, il se fait chrétien avec les chrétiens, on va dire, il se fait païen avec les païens. Quand Paul, il adaptait son langage aux juifs, il adaptait son langage aux païens, et Dieu, il a la même chose pour nous. Et c'est là où c'est toujours rassurant, c'est qu'il connaît nos façons d'être, il connaît nos façons de faire, et il a un message qui est particulier pour chacun. Donc là, ils ont tous les deux ouvert leur cœur, on va dire. Et dans les deux cas, par contre, il y a quelque chose de commun aussi, c'est que il y a des conséquences. Lydie, quand le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive, elle eut été baptisée, donc c'est déjà un premier signe. Elle s'est fait baptiser pour montrer qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans son cœur. Et après, elle a voulu les faire rentrer dans sa maison. Elle m'a dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, on peut dire, il l'a vu deux jours, ça doit être un peu court pour juger ça, mais en tout cas, c'était son cœur de dire, si tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, viens dans ma maison et ça me fera plaisir, ça me réconfortera un peu dans un sens. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Et pour la fille, celle qui avait l'esprit de Python, le changement, il devait être encore plus grand. Parce qu'il y a Paul lui ordonne à l'esprit de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats. Donc, pour que les maîtres de la servante y voient que d'un seul coup, oh là, on a perdu notre source d'argent, là, il y a quelque chose qui, elle peut plus annoncer le futur, elle a dû changer. Et c'est vrai qu'on a souvent en tête des gens qui changent de visage quand le Seigneur, il les touche et qui ont un visage qui radoucit. On ne sait pas si c'était le cas, c'est peut-être pas le cas à chaque fois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était visible en elle, et ses maîtres, eux, ils l'ont vu. Une autre chose qui est intéressante avec cette femme, c'est qu'elle avait un esprit, et elle était complètement, enchaînée, peut-être pas physiquement, mais par ses maîtres. Ses maîtres la contrôlaient complètement et faisaient d'elle ce qu'ils voulaient. Et on peut se dire, mais comment une personne comme ça, elle peut entendre quelque chose du Seigneur? Elle est maîtrisée par quelqu'un d'autre, physiquement. Elle a un esprit qui la maîtrise elle-même et qui lui fait voir des choses dans le futur et des choses comme ça. Et on peut se dire, ces personnes-là, c'est fini. Et en fait, non. Le Seigneur, il peut la toucher. Et si des fois on est découragé d'annoncer la parole, de parler du Seigneur, on se dit, les gens, ils changent pas, ça a pas d'effet, ça. Seigneur, est-ce que il y a des gens pour qui c'est déjà fini, c'est trop tard, ou des fois on est un peu découragé et déçu. Et le Seigneur, quand il touche une personne comme ça, ou quand il touche le démoniaque qui sortait des sépulcres, c'est un ouf pour nous de dire ouf. Seigneur, tu peux toucher n'importe qui. Même une personne comme ça qui devait plus contrôler grand chose de sa propre vie, il y a un moment où tu lui mets une fenêtre, c'est ouvert là, et à ce moment-là, elle peut reconnaître la voix du Seigneur, et elle a le choix de répondre oui ou non. Et si elle avait répondu non, ben peut-être qu'après c'était fini, elle serait repartie dans ces choses-là, et voilà. Mais le Seigneur, il a prévu un moment de lucidité où elle pouvait comprendre ce qu'elle entendait. Et ça, c'était encourageant pour moi de voir ça, parce que on peut dire, il y a des gens au travail avec qui j'ai parlé plusieurs fois, ou des amis même, et ça change rien du tout. Ben, peut-être qu'on n'est pas tombé dans la bonne fenêtre qui était ouverte, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un moment ou un autre où le Seigneur il va permettre ça, et quelle que soit leur situation, ils peuvent être liés par tout un tas de choses, il leur permettra de comprendre ce qu'il annonce. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Ils sont culottés quand même. Il a guéri une démoniaque et puis eux, ils vont le traîner en disant « Ils troublent notre ville. » Tout ça parce qu'ils ont perdu leur source d'argent. « Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et c'est là où on a une scène qui est complètement, moi je trouve irréaliste, quoi. Je m'imagine Paul qui s'est fait, donc il lui déchire les vêtements, il batte, il le met en prison, et lui qu'est-ce qu'il fait avec Silas, il chante. Et ça, je trouve ça tellement, c'est tellement pas naturel, tellement pas normal, et on a presque du mal à y croire, quoi. C'est, je suis sûr et certain, on me met en prison comme ça, on se dit, mais c'est pas possible, je peux pas chanter. Et là, ben si, ils se mettent à chanter dans la prison tellement ils sont remplis du Seigneur. Et ça, je trouve ça juste génial de voir ces choses-là, parce que le Seigneur, il fait des choses que naturellement, c'est foutu d'avance. Et il fait des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que nous, on peut penser. Et là, il leur permet d'être tellement dans la joie dans la prison, qu'ils chantent. Ils chantent dans la prison. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, après le tremblement de terre, les geôliers se disent, oh là là, il y a un tremblement de terre, les portes sont ouvertes. Il fait pour se donner la mort, parce qu'on lui a dit, en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. À l'époque, c'était pas juste un blâme ou quelque chose comme ça. Il avait pas fait son boulot, il perdait des prisonniers. Et ben, c'est lui qui perdait la vie. Il était responsable des gens qu'il avait avec lui dans sa prison. Donc, il fait pour se donner la mort. Et Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le Seigneur, il leur a donné la possibilité de sortir de la prison. On se dit, « Gloire à Dieu, il a fait un miracle. » Et ils ne sortent pas, ils restent dans la prison. Et d'un côté, quand Pierre, il a été mis en prison, le Seigneur, il lui a ouvert la porte. Pierre, il est parti. Donc c'est encore une fois, il y a des choses tellement spécifiques à chaque situation. Des fois, Dieu, il permet d'ouvrir une porte et il nous dit, « Reste assis, bouge pas. » Et des fois, il ouvre la même porte et va dire, vas-y, sors, c'est le moment. Et quand on y repense, nous après, avec bien le recul nécessaire, on se dit s'il était sorti de prison, s'il en avait profité pour se sauver. On aurait su dans tout l'Empire romain que Paul était un fugitif, qui s'était sauvé de prison. Et alors après, pour annoncer l'évangile, c'était un peu raté. Il aurait eu forcément les Juifs. Pour lui rappeler que, ouais, mais lui, regardez, il parle de faire des choses correctes et il s'est sauvé de prison. Et donc finalement, Paul, je ne sais pas s'il y a réfléchi, je ne suis même pas sûr qu'il ait réfléchi, mais il a fait la bonne chose et il est resté là alors que ça paraissait complètement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et c'est là où, encore une fois, nous, pour calquer notre comportement sur celui de Paul, ou sur celui du Seigneur plutôt, on a à être tellement proche du Seigneur que quand il ouvre une porte, notre première réaction, c'est pas de foncer. C'est de foncer s'il nous a dit de foncer. C'est de rester assis s'il nous a dit de rester assis. Et c'est des choses que je trouve pas évidentes, parce que nous, on a des réflexes de chrétiens, on va dire. Quand le Seigneur, il fait quelque chose comme ça, bon ben, c'est qu'il nous ouvre la porte. Forcément, le Seigneur, il fait pas des choses. Il va pas ouvrir une porte pour nous laisser à l'intérieur. Et ben, si, là, il les a laissés à l'intérieur. Et donc, le résultat de ça, c'est que le geôlier se convertit. Et donc au verset 29, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et te seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et donc il s'est fait baptiser. Et la réaction du geôlier, on revient sur la même chose que tout à l'heure. C'est quoi sa réaction, juste? Il arrive et puis il dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» On ne voit pas trop d'où vient sa question, mais finalement, avec tout ce qui s'était passé, il a dû juste avoir le temps nécessaire pour comprendre qu'il était face à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que lui, et que sa réaction, c'était, « Je suis petit, je suis rien du tout, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» C'est vraiment typiquement la réaction qu'on doit avoir devant le Seigneur, de se dire, « Seigneur, t'es tellement grand, je suis tellement, tellement ridicule, tellement petit, qu'est-ce que je peux faire ?» Et qu'est-ce que je peux faire? Ça montre que je me soumets, quoi. Dis ce que je dois faire et je vais le faire. Donc le geôlier a été sauvé. Et donc pour finir l'histoire quand même, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Encore une fois, le Seigneur, il ouvre la porte grande ouverte de la prison et c'est bon, c'est libre. Et Paul, il dit, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et donc ça s'explique, donc ça vous le savez, par le fait que les Romains ne pouvaient pas infliger de châtiments dégradants à ceux qui étaient citoyens romains. Les autres, apparemment, ils pouvaient faire plus ou moins ce qu'ils voulaient, mais les Romains, on ne pouvait pas y toucher, il devait y avoir un jugement public, un procès, et ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Et donc, en mettant Paul en prison, en le faisant battre de verge sans jugement, ils avaient commis une erreur. Et là où Paul, il agit encore une fois avec une grande sagesse, c'est plutôt que de sortir comme ça, en disant, vous pouvez sortir et de sortir un peu en douce et accepter ça, et bien il dit, non, vous venez me mettre dehors, parce que comme ça, ça montrera aux gens que j'étais bien innocent, et c'est vous-même qui me mettez dehors. S'il était parti un peu comme ça, comme on lui a dit, c'était un peu implicitement accepté qu'il avait fait quelque chose de mal et qu'il méritait sa peine de prison. Et là encore, tout ça s'est fait dans quel but? Dans le but de servir l'évangile, et que quand il irait autre part, on lui dirait pas, ouais, mais toi t'as été en prison. Là il pourrait, ouais, mais ils sont venus me faire sortir parce que j'étais innocent. Je vais finir la fois prochaine, je pense. Je continue cette histoire de Paul parce que je trouve que quand on l'étudie, on a toute une série d'instructions, de règles, de comparaisons pour notre propre vie. Et quand on regarde sa façon à lui d'agir, sa façon juste de ne pas prendre son intérêt, de pas jouer l'hypocrite non plus, qui est de toute façon avoir son propre intérêt quand on est hypocrite, eh ben il pense tout à l'intérêt de Dieu et tout pour l'évangile. Si guérit quelqu'un, c'est pour la gloire de l'évangile. S'il ne sort pas de prison, quand on lui ouvre la porte, c'est pour la gloire de l'évangile. Et s'il fait venir les prêteurs ou les lecteurs pour se faire sortir, c'est pas pour être, moi je ressors comme ça, libre, c'est pas pour faire un scandale devant tout le monde, c'est pour la gloire de l'évangile et pour pas qu'après il y ait des liens. Et quand il fait circoncire Timothée, c'est encore pour la gloire de l'évangile, pour pas avoir des entraves. Donc ça c'est vraiment une règle pour nous. Il y a les deux règles dans tout ce qu'on voit. Une règle qui est de tout pour la gloire de l'évangile, vraiment pour le Seigneur et pas pour nous-mêmes. Et la deuxième, c'est tout est permis, tout n'édifie pas. C'est tout, pas pour moi, encore une fois, mais pour les autres et par amour pour les autres.